RPL Radio, ensemble à Lambersa. RPL Radio au plus proche de ses voisins lambersatois avec Ensemble à Lambersa, la matinale dédiée à l'actualité de la commune, ses événements, mais aussi des rencontres avec ceux qui font la ville et la vie de Lambersa. Aujourd'hui, dans Ensemble à Lambersa, nous vous proposons de découvrir l'association Enfance et Vie en compagnie de Christiane et de Catherine. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Vous allez bien?
Très bien, merci.
Merci à vous d'être ici dans les studios d'RPL Radio. Alors pour commencer, je vais vous laisser vous présenter chacune à nos auditeurs.
Alors je m'appelle Christiane Laroyenne, je suis lambersartoise depuis une bonne trentaine d'années. Je fais partie de l'association Enfance et Vie depuis plus de 20 ans. J'ai commencé en tant que famille d'accueil et depuis que je suis à la retraite, je m'investis un peu plus et je suis devenue secrétaire et responsable des parrainages pour Madagascar.
Catherine Sénéchal, j'habite Verlinghem. Je suis responsable des hospitalisations cardiaques en binôme avec Marie-Pierre Delebecq. Je fais partie d'Enfance et Vie depuis seulement 2 ans, mais avant cela, j'avais été famille d'accueil également.
Alors, Enfance et Vie, qu'est-ce que c'est comme association? Comment est-ce que c'est né déjà?
Alors, c'est une association qui est quand même très ancienne, puisqu'autrefois, c'était donc Terre des Hommes, Terre des Hommes France, qui était dissous. Et toutes les associations qui étaient régionales autour de Terre des Hommes ont créé une autre association. Donc, on a créé Enfance et Vie dans la région Nord-Pas-de-Calais, Enfance et Partage dans la région d'Amiens, etc. Donc, toutes les régions de France ont créé une autre association, qui sont en général, donc ces associations sont régionales maintenant. Donc depuis 86, nous invitons des enfants, enfin invités si je puis dire, nous faisons venir des enfants qui viennent se faire opérer du cœur au CHR de Lille, et nous devrions fêter en 2022, au cours d'une AG, le 200e enfant, bien qu'il y en ait un peu plus quand même. Catherine peut-être vous donner les chiffres exacts.
Oui, en fait, le 200e enfant, il aurait dû être fêté l'année dernière, mais avec le confinement, on n'a pas pu le faire. Donc là, on doit arriver à 205-206 enfants accueillis depuis le début de l'association.
Pour quelle pathologie est-ce que vous accueillez et opérez ensuite, enfin, prenez en charge les enfants?
Essentiellement des pathologies cardiaques. Les pathologies sont découvertes au décours d'une autre pathologie.
Oui, quelquefois, même très tard, quand on se rend compte que les enfants s'essoufflent trop facilement, qu'ils n'arrivent pas à marcher, qu'ils n'arrivent pas à courir. Donc, quelquefois, ils ont 4, 6, 8 ans. Parce qu'en général, le parcours de découverte est assez long, puisque ces enfants peuvent habiter la campagne. Ils ne voient pas de médecin, ils voient d'abord le marabout. Ensuite, on va voir le dispensaire. Ensuite, le dispensaire envoie dans une plus grande ville et on arrive dans la capitale où là, si vraiment ça nécessite une opération, les enfants sont envoyés en Europe.
Comment est-ce que vous vous organisez? Comment est-ce que vous travaillez en lien avec votre association et les hôpitaux?
Donc, les enfants sont opérés à l'Institut Cœur-Poumon. On soumet les dossiers que nos correspondants nous envoient, on les soumet à l'Institut Cœur-Poumon, et quand les dossiers médicaux sont acceptés par les médecins, on cherche une famille d'accueil pour l'enfant qui va arriver.
Alors concrètement, quelles sont vos actions? Comment est-ce que vous mobilisez au quotidien?
Alors, quand on sait que des enfants vont arriver, il faut bien sûr chercher des familles d'accueil. Donc, elles se manifestent parfois d'elles-mêmes, ou sinon, on est obligé de demander un peu qui pourrait, etc. Voilà, il faut d'abord chercher les familles d'accueil. Et ensuite, bon, de toute façon, ensuite, c'est les CHR qui décident, enfin, l'Institut Cœur-Poumon qui décide s'ils prennent l'enfant ou pas. Si la pathologie est trop importante, l'enfant ne se fera pas opérer. Voilà, donc en général, c'est des choses qui se passent quand même pas trop mal.
À travers la métropole lilloise, combien de familles sont mobilisées pour accueillir des enfants aujourd'hui? Est-ce qu'il y en a beaucoup? Est-ce que vous êtes encore en recherche de nouvelles familles?
Alors, oui, ça dépend des périodes.
On est tout le temps en recherche de familles d'accueil parce que quand on appelle les contacts qu'on a, bon, quelquefois les familles ne sont pas disponibles, ce qu'on peut comprendre tout à fait. Donc, on aime bien avoir des familles d'accueil en réserve Parce que là, par exemple, il y a une petite fille qui est arrivée au mois d'août et on a eu beaucoup de mal à trouver une famille d'accueil parce que c'était les vacances. Mmh. Et donc, Marie-Pierre et moi, on a dû prendre le relais pendant le mois d'août parce que la famille d'accueil n'était pas disponible avant le mois de septembre.
Et quelquefois, bon, il peut y avoir une maladie qui arrive dans la famille, donc on est obligé de chercher... de chercher une autre famille, donc il faut avoir une petite réserve sous la main, voilà.
Vous parlez de maladie, on imagine que le Covid, ça a eu un impact aussi sur votre activité. Comment ça s'est passé pour vous cette période? Comment ça se passe d'ailleurs toujours pour vous? Est-ce que ça a changé un petit peu votre activité?
Alors, nos activités ici dans la région ont été interrompues. Bon, tout ce qu'on fait pour gagner de l'argent, par exemple pour les opérations, ces activités-là ont été arrêtées, donc plus de concerts, plus de ventes, etc., etc. Donc, c'est un manque à gagner assez important. Nous n'avions plus que les dons. Et en ce qui concerne les enfants qui sont arrivés, eh bien, un des petits garçons, je vais peut-être laisser Catherine, puisqu'elle connaît bien l'affaire. Un petit garçon qui est arrivé a dû rester 6 mois, donc je vais... Catherine peut
expliquer. Oui, c'est ça. En fait, il est arrivé au mois de janvier, on a été confinés au mois de mars. Oui. Et donc, il est resté 5 mois chez nous parce qu'il ne pouvait plus retourner dans son pays.
Plus d'avion. D'accord. Plus d'avion. Et les enfants qui devaient venir, même chose, ne sont pas venus.
Non.
Voilà, tout a été décalé et ils sont arrivés un an plus tard.
Oui, c'est ça.
Voilà.
Mm-hmm.
Vous parliez des événements que vous mettez en place. Donc, tous ces événements, vous parliez du concert, il y a une vente qui a eu lieu aussi au début du mois. L'objectif, c'est de financer l'opération, c'est ça? Ou il y a de la prise en charge ensuite dans les familles, est totalement bénévole? À quelle destination vont les...
Alors, les familles d'accueil sont bénévoles, c'est-à-dire que l'enfant est pris en charge complètement par la famille au niveau de la nourriture, de l'habillement, etc. Donc, nous devons financer le billet d'avion aussi.
Il y a l'association Marie-Reine de la Paix qui œuvre aussi au Burundi, qui récemment a pris en charge le billet d'avion du petit Amos pour nous aider aussi dans notre activité.
Oui, parce que bon, donc il faut payer le billet d'avion. Donc, les familles d'accueil, je vous ai dit, elles sont totalement bénévoles. Ensuite, bon, nous avons bien sûr les frais d'hospitalisation. Nous avons donc un contrat, une convention avec l'Institut Cœur Poumon.
Donc justement, pour financer tout ça, il y avait une vente qui a eu lieu au début du mois à la ferme du Mont-Garin. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Comment ça s'est passé? Et qu'est-ce que ça vous a permis de récolter comme fonds?
Nous essayons d'avoir des objets qui viennent des pays que nous aidons. Parce qu'en fait, nous avons l'hospitalisation, mais il y a un autre pôle qui est l'aide à l'enfance dans certains pays en voie de développement. Madagascar, Haïti, Éthiopie, etc. Et donc, en général, on arrive à avoir de l'artisanat de ces pays, et ce sont cet artisanat-là que nous vendons. Et puis, nous avons également des équipes locales, par exemple dans le Dunkerquois, qui fabriquent des objets d'artisanat, de la porcelaine, peinture porcelaine, de la couture, etc. Et nous vendons également ces objets. Et cette vente, elle est tournante en fait. Donc ça nous permet d'avoir quelques milliers d'euros pendant cette période qui va entre septembre et décembre. Il y a des marchés de Noël auxquels nous participons également, à Arras par exemple. Nous avons également des ventes mensuelles de livres, c'est-à-dire qu'on a des bourses livres qui sont mensuelles avec l'équipe de Douai, avec l'équipe de Villeneuve d'Ascq. Voilà, donc un tas de petites choses comme ça qui nous permettent de récolter des fonds.
Quel est le prochain événement en date? Vous avez parlé d'un concert pour le mois de décembre, c'est bien
oui,
ça?
Oui, c'est ça. Alors, le 12 décembre à Lambersart, nous aurons le grand plaisir nous avons le grand plaisir de pouvoir organiser un concert dans l'église Saint-Calixte. Ça se passera donc, c'est à 17h30, et c'est donc les International Singers, qui sont dirigés par Simon Fletcher, et qui vont nous chanter une histoire de Noël. Donc ce sera en anglais. Ce n'est pas la première fois qu'il chante pour nous. Ça s'est déjà fait à Sens, ça s'est déjà fait à Lille plusieurs fois. Et à chaque fois, les bénéfices du concert sont au profit de notre association. Donc, il chante totalement bénévolement.
On pourra retrouver de toute façon l'ensemble de ces événements peut-être sur vos réseaux sociaux, sur les sites internet. Est-ce que vous pouvez les redonner à nos auditeurs?
Donc, le site internet, c'est Enfance et Vie Nord-Pas-de-Calais.
Oui.
Le compte Instagram, c'est Enfance et Vie, et Facebook également.
Vous, personnellement, participer, enfin prendre part à une association comme ça, qu'est-ce que ça vous apporte au quotidien ?
Quand on voit les enfants repartir, ou même quand on les voit sortir de l'hôpital, eh bien, on se dit qu'on a fait quelque chose, même si on n'y est pas pour pas grand-chose, mais on a l'impression d'avoir des petits ressuscités à côté de nous, parce que quand ils arrivent, ils sont vraiment dans un mauvais état. Certains ne marchent pas, ils ne peuvent pas grimper les escaliers, ils se font porter, ils sont tristes. Voilà, et puis quand quelques jours après l'opération, on les voit revivre. Donc c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Vraiment, là, on a l'impression d'avoir fait quelque chose. Même si quelquefois, c'est difficile d'aller tracter, d'aller porter des affiches, etc., etc. Ça nous semble un peu vain, quelquefois. Mais quand on voit les enfants, on est très heureux.
On est heureux d'être un maillon de la chaîne et de renvoyer ces enfants guéris dans leur pays.
Quel lien est-ce que vous entretenez finalement avec ces enfants une fois l'opération passée ? Est-ce que vous restez en contact ? Comment ça se passe ?
Pas toujours, ça dépend un petit peu. Le premier enfant que j'ai accueilli venait du Mali et la famille ne parlait pas français, donc ça a été compliqué de garder des contacts. Par contre, la petite reine qui venait du Togo, la famille parlait français et régulièrement on a des nouvelles. Le papa m'envoie des photos en disant « je vous envoie des photos de votre fille ». C'est vraiment très touchant et on garde de beaux liens.
J'ai eu un petit peu la même chose. Donc c'est variable, ça dépend aussi un petit peu des familles là-bas. Si elles habitent la campagne, c'est plus compliqué. Si elles habitent la ville, elles ont déjà un téléphone portable. Si l'enfant est très petit, c'est plus difficile. S'il a déjà 7-8 ans, donc lui va aussi demander à avoir un contact avec la famille. Donc moi j'ai gardé des contacts et les enfants sont devenus grands et adolescents, maintenant même adultes, ayant des enfants, etc. Donc on voit que oui, on a travaillé pour quelque chose, c'est extraordinaire.
Quel est le message que vous avez envie de transmettre aujourd'hui à des personnes qui nous écoutent et qui peut-être se disent moi aussi, finalement, je pourrais peut-être accueillir quelqu'un, mais c'est une démarche qui n'est pas forcément facile, j'imagine. Peut-être un mot pour encourager ou qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire à ces personnes-là ?
Eh bien, que quelquefois, c'est difficile. C'est difficile parce qu'on ne dort pas beaucoup ou parce que c'est assez prenant ou parce qu'il faut aller au CHR tous les jours, même y dormir quelquefois si l'enfant est petit. Mais bon, c'est extrêmement enrichissant. Donc ça vaut la peine d'essayer de le faire, voilà. Et puis ne pas hésiter surtout à demander l'aide de l'entourage, l'aide des responsables de l'association. Donc Catherine et Marie-Pierre sont toujours très disponibles et aident quand il faut aider, etc.
Il y a un petit garçon qui est venu du Burundi, il est reparti jeudi, et il a été accueilli dans une famille qui avait 3 jeunes enfants de 6, 4 et 2 ans. Et les parents étaient plus ou moins en télétravail, mais ils se sont arrangés. Et franchement, moi, j'étais admirative de cette famille parce qu'ils se sont donnés à 200%. Le petit Amos, il a fait comme les enfants de la famille. Il a essayé beaucoup de choses. Et les parents ont dit que c'était sportif, mais qu'en travaillant, ils avaient quand même réussi. Et je pense que pour les enfants de la famille aussi, c'est une très belle expérience d'avoir un petit frère qui vient de l'étranger comme ça pendant quelques semaines. Et je pense qu'ils vont en garder de bons souvenirs.
C'est assez important aussi pour les membres de la famille. Donc on parle des enfants de la famille, mais vraiment l'entourage proche, ils se sentent très concernés. Et d'ailleurs, il y a une très grande solidarité. Par exemple, l'enfant arrive avec une toute petite valise, il n'y a rien dans la valise pratiquement, et on peut se retrouver avec des kilos de vêtements parce qu'il y a vraiment une très bonne solidarité. Et les enfants vont quelquefois à l'école, donc là aussi c'est super parce que ça permet aussi à d'autres enfants de voir que nous avons beaucoup de chance d'avoir des hôpitaux et puis de ne pas être obligé de faire des longs voyages, de quitter les parents pendant 2-3 mois, puisque c'est quand même assez long ces séjours. Voilà, donc pour l'entourage, pour les enfants des familles, c'est important.
Alors si jamais des personnes qui nous écoutent souhaitent à leur tour accueillir des enfants, on prend contact avec vous via les différents canaux qu'on a donné tout à l'heure, les réseaux sociaux et le site internet. Très bien. Merci beaucoup à vous deux et puis à très bientôt à Lambersa.
Merci bien.
Ensemble à Lambersa.